Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. L'évangile de Luc, chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 36. Vous savez, des fois les chants, ça vient équilibrer la prédication, mais des fois ça vient vraiment s'aligner avec la pensée qu'on a. Et là, c'est le cas. Je crois vraiment que le Seigneur veut parler à quelqu'un cet après-midi parce que les chants étaient vraiment dans la pensée que j'avais reçue. La pensée, le titre, c'est « Va en paix ». Va en paix. On a chanté « Océan de paix ». Océan de paix. Il m'a donné sa paix. On a chanté « Tu peux recevoir la paix ». Et je crois vraiment que cet après-midi, c'est le temps pour quelqu'un de recevoir la paix du Seigneur dans son cœur. Alors dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 36, il est écrit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se retournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Va en paix. Dans ce texte, d'ailleurs, on voit qu'on a encore une preuve que Jésus est Dieu, parce qu'il pardonne les péchés. Vous savez que le seul qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Et au final, ces gens-là, leur pensée montrait tout simplement qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Mais Jésus est celui qui peut vraiment pardonner les péchés. En tout cas, ce qui nous intéresse, la parole qui nous intéresse cet après-midi, c'est celle-ci. Va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors cet après-midi, on va parler de la paix. Alors, on peut se poser une question, mais c'est quoi la paix ? Qu'est-ce que c'est que la paix ? Alors si on va voir dans le Larousse, on voit que la paix, c'est un état de tranquillité chez quelqu'un. C'est la tranquillité. C'est un état de repos intérieur chez quelqu'un. C'est le repos. C'est un calme intérieur, le calme. C'est une absence d'agitation. Je relis. Un état de tranquillité, de repos, de calme intérieur. C'est une absence d'agitation. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez la paix au regard de cette description? Est-ce que vous êtes dans cet état de tranquillité, dans cet état de repos? Est-ce que c'est calme à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une absence d'agitation? Vous savez, aujourd'hui, la paix, c'est quelque chose qui est très, très, très recherché. Si on regarde, je ne sais pas, si vous allez au travail, souvent, ce que les gens cherchent, c'est un peu la paix. Alors, ils le cherchent au travers de philosophie, au travers de la méditation, à travers du yoga, au travers de toutes sortes de choses. Et vraiment, ce que les gens cherchent, c'est cette paix intérieure. Et d'ailleurs, il y en a certains même qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir cette paix. Et on voit qu'au final, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des richesses, on peut avoir une vie qui est assez bénie, sans avoir la paix, sans être calme à l'intérieur. On peut même être chrétien, venir à l'église, servir et servir encore, et ne pas être du tout calme, et avoir cette agitation à l'intérieur. Mais Jésus va dire à cette femme, va en paix. Si on regarde à cette femme, on voit d'ailleurs qu'elle était riche. Elle avait un vase d'albâtre. Ce n'était pas n'importe qui avait ça. C'était des parfums qui étaient très chers. C'est-à-dire que cette femme, elle avait beaucoup d'argent en tout cas. Mais pourtant, Jésus va lui dire, va en paix. Elle avait les sous, mais elle n'avait pas la paix. Elle n'avait pas la paix. Et vous savez, Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette parole qu'il a dit à cette femme, il peut vous le dire à vous. Et peut-être que vous êtes rentré dans ce lieu agité, peut-être que vous n'avez pas la paix, mais le Seigneur, il est celui qui vous dit, va en paix. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors comment faire pour être en paix? On pourrait se poser la question, mais d'accord, j'ai pas la paix, mais pourquoi j'ai pas la paix? Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas la paix, il y a peut-être des raisons aussi. Pourquoi est-ce que je peux ne pas avoir la paix? En tout cas, la Bible, elle montre qu'il y a dans le cœur de l'homme quelque chose qui enlève la paix. Vous voyez où je veux en venir? C'est ce que la Bible appelle le péché. Et on voit dans la Bible que toutes les personnes qui ont péché ne sont pas en paix. En tout cas, il y a un homme qui a beaucoup péché, c'était David. Et voilà ce qu'il va dire quand il va parler de son état intérieur lorsqu'il y avait le péché. Il va dire, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Un mal brûlant dévore mes entrailles. Il était dévoré de l'intérieur. Ben ça, c'est pas la paix. Hein. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Le trouble. Vous savez, c'est le contraire du calme. Imaginez un lac, il n'y a pas de vent, c'est tout calme, c'est tout plat. Puis d'un coup, il y a de l'agitation, il y a du vent, puis il commence à y avoir des vagues. Vous voyez l'image? En tout cas, intérieurement, cet homme qui a péché, il dira, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Il va dire, mon cœur est agité. Ma force m'abandonne. Tout ça à cause du péché. À cause du péché. La femme, dans le texte que l'on a lu, il nous est dit que c'était une grande pécheresse. Ce n'était pas juste une pécheresse, c'était une grande pécheresse. Ça veut dire qu'elle avait fait beaucoup de choses qui étaient des péchés. C'était une femme qui avait, on ne sait pas, ce n'est pas décrit les péchés qu'elle avait faits. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle en avait fait beaucoup et qu'elle était connue pour ça. D'ailleurs, Simon, on connaît le nom du pharisien, mais cette femme, on ne connaît pas son nom. On sait juste qu'elle avait beaucoup péché. En fait, cette femme, elle est identifiée par ce qu'elle avait fait, par ses péchés. Mais au travers de cette parabole, Jésus nous montre, la parabole que l'on a lue, que lorsque l'on pêche, on a une dette envers Dieu. Cette femme, elle avait une dette. Au final, vous savez, tout ce que l'on a, tout ce qui fait notre vie, tout ce que nous avons dans notre vie, c'est Dieu qui nous l'a donné. Vous savez, la vie, le mouvement, l'être, tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous le donne. Et cette femme, tout ce qu'elle était, c'était Dieu qui lui avait donné, tout ce qu'elle avait. Mais ce que Dieu lui avait donné, elle l'avait utilisé pour pécher. Elle l'avait utilisé, sa vie, pour faire des choses qui étaient mauvaises. Et au final, cette femme, au lieu d'accomplir le plan de Dieu pour elle, elle avait tout utilisé ce qu'elle avait pour faire le mal. Un peu comme le fils prodigue, vous savez. Il avait des richesses et il a tout dilapidé. Il était riche, hein, mais il a tout perdu à cause de son péché. Et cette femme, elle avait une dette. Et lorsque l'on pêche, lorsque l'on rate le but de notre vie, lorsqu'on utilise notre vie pour faire le mal, pour faire du mal aux autres, pour faire du mal à soi-même, on rate le plan de Dieu pour nous. Et au final, on a une dette envers lui. Et dans Hébreux au chapitre 9, verset 27, il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est vrai que quand on a fait le mal, vous savez, on peut fuir une région, on peut fuir des personnes, mais on ne peut pas fuir sa conscience. Et c'est vrai que lorsqu'on a fait le mal, vous savez, notre conscience, elle est toujours là pour nous accuser. Et lorsque l'on a fait le mal et qu'on est sous la culpabilité, on ne peut pas être calme, on ne peut pas être serein. On est obligé d'être troublé à l'intérieur. Mais cette femme, elle avait compris quelque chose. Elle avait compris quelque chose. Elle avait compris qu'au travers de la personne de Jésus, sa dette avait été effacée, qu'elle avait été pardonnée. On voit parce qu'au final, quand cette femme, elle donne son, son, elle répand le vase d'albâtre, pourrait se dire, bah, peut-être qu'elle essaye de racheter sa dette. Non ? On pourrait l'interpréter comme ça s'il n'y avait pas eu la parabole. Elle a beaucoup péché, elle a une dette envers Dieu. Bon, bah, elle essaye de faire une bonne œuvre pour se rattraper. Mais Jésus va expliquer que ce n'est pas ça qui se passe. Il va expliquer que cette femme, elle va effectivement donner quelque chose à Dieu qui a de la valeur, pas pour être pardonnée, mais parce qu'elle a été pardonnée. Cette femme, elle pleurait, pas pour être pardonnée, mais par reconnaissance. Et au final, cette femme, pourquoi elle a pu repartir en paix ? Elle a pu repartir en paix parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Oui, il y avait des nombreux péchés, mais oui, ils ont été pardonnés. Vous voyez cette parole de Jésus ? Qu'est-ce qu'elle est belle ? Jésus dit à sa femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et vous pouvez repartir en paix parce que Dieu est celui qui pardonne les péchés. Et oui, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais lorsque l'on fait la paix avec Dieu, lorsque l'on se réconcilie avec Dieu, lorsqu'on lui demande pardon et que l'on est pardonné de ses péchés, on peut être en paix. Parce qu'on sait qu'au final, au jour du jugement, ce qui nous attend, c'est la gloire éternelle. Ça ne sera pas la condamnation parce que c'est Jésus qui a payé pour nous. Dans Ésaïe 53, au verset 5, il nous est dit en parlant de Jésus, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et vous pouvez être en paix malgré le fait que vous avez péché, parce que celui qui a payé le prix pour les péchés, c'est Jésus-Christ. Je relis ce verset. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc je peux être en paix parce que c'est Jésus qui a été jugé pour mes péchés. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour ceux qui s'unissent à lui, pour ceux qui croient en lui. Dans Marc au chapitre 14, il nous est dit que Jésus, dans le jardin de Gethsémané, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver des frayeurs et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et on voit que Jésus, il a vécu des angoisses. Pourtant, lui, il était parfait. Pourquoi est-ce qu'il a été angoissé ? Il a été angoissé à cause de nos péchés. Et au final, les angoisses que nous, on méritait, à cause de nos péchés, à cause de notre culpabilité, c'est Jésus qui les a subies, afin que nous puissions avoir la paix. Nos angoisses, nous, tout ce qu'on méritait, cette colère de Dieu, il l'a pris et il en a subi les conséquences intérieures pour que nous puissions avoir sa paix. On peut avoir la paix parce que c'est Jésus qui a subi les angoisses. Dans Ésaïe au chapitre 57 et au verset 16, on va lire un verset. On va aller le lire ensemble, s'il vous plaît. Dans Ésaïe au chapitre 57, on voit dans ce texte Dieu qui parle et on voit quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté ? Il dit, on va lire à partir du verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. » Voyez, là, il y a la culpabilité. Il y a le rebelle qui fait ce qu'il veut, qui suit le chemin de son cœur, qui pêche. Mais voilà ce que dit Dieu. « J'ai vu ses voies et je le guérirai. » Malgré le fait que Dieu a vu l'égarement, l'avidité coupable, il dit « et je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. » Et regardez ce qu'il dit au coupable. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Vous savez, il y a cette parole où Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour des justes, mais qu'il est venu pour des coupables. Et vous savez, peut-être que vous vous dites, mais je suis coupable, j'ai fait le mal. Mais c'est justement pour vous que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour des justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il est venu justement pour ceux qui ont fait le mal, afin de pardonner et afin de donner la paix. Mais après, on voit au verset 20, il dit ceci. « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Alors on voit d'un côté, au verset 19, que ce que Dieu veut faire, c'est mettre la paix. Mais on voit quand même qu'au verset 21, il dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Alors on pourrait se dire, mais au final, les personnes à qui Dieu parle, ce sont des méchants. Parce qu'au final, ils ont suivi le chemin de leur cœur, ils ont eu une avidité coupable, etc. Mais c'est quoi le méchant au final? Le méchant, c'est celui qui veut garder le mal. C'est celui qui veut pratiquer le mal. C'est celui qui ne veut pas se repentir de son péché. Et le juste, c'est quoi? C'est pas celui qui n'a pas fait de bêtises. Le juste, c'est celui qui, quand il les a fait, demande pardon. Vous comprenez la différence? Aux yeux de Dieu, le juste, c'est celui qui se repent. C'est pas celui qui ne fait pas de bêtises, mais c'est celui qui s'en détourne et qui choisit de demander pardon à Dieu. Oui, on est coupable. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu intercéder pour des coupables. C'est écrit dans Ésaïe au chapitre 53. Il est venu pour les coupables. Et s'il y a de la culpabilité dans le cœur, vous pouvez vous repentir et être pardonné de vos péchés parce que c'est Jésus qui est mort pour vous à la croix. Et par son sacrifice à la croix, vous pouvez recevoir la paix. Car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une autre définition de la paix, c'est la cessation d'un état de guerre. On dit par exemple des fois que deux pays, ils négocient la paix. Ou sinon, la paix, c'est aussi un groupe de personnes qui ne sont plus en querelle, qui ne sont plus en conflit. Au final, la paix, c'est quoi? C'est aussi, en fait, ça a deux sens. C'est un état intérieur, je suis en paix dedans, dans mon cœur, mais c'est aussi être en paix les uns avec une personne, c'est être réconcilié avec quelqu'un. Quand il y a des querelles, c'est plus la paix. Mais quand il y a la réconciliation, il y a la paix. Et si on peut être en paix aussi cet après-midi, c'est parce qu'il y a la possibilité d'être en paix avec Dieu. Je peux être en paix intérieurement parce que je suis en paix avec Dieu, parce que je suis réconcilié avec lui. Et il y a un homme qui dira, c'est Paul, aux Corinthiens, il dira que les ministères, au final, ils ont des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et il dira, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés. Si je veux avoir cette paix, j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. Je ne peux pas être loin de celui qui est le prince de la paix et ensuite essayer d'avoir la paix. Si je veux la paix, il faut dans ma vie que je sois réconcilié, que je renoue une relation avec celui qui donne la paix. Celui qui donne la paix. Jésus dira dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On pourrait traduire « je vous donnerai la paix ». Hein, c'est le repos du cœur. On peut se poser la question, c'est vrai, peut-être que je ne suis pas en paix, mais est-ce que je suis venu voir celui qui donne la paix? Est-ce que je suis venu voir Jésus-Christ? En tout cas, Jésus dira dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Cette femme, elle est venue à Jésus. Elle est repartie en paix. Est-ce que vous êtes allé à Jésus? Pas à l'église évangélique, hein, de Toulouse-Saint-Agne, 11 rue Saint-Guilhem. Mais est-ce que vous êtes venu à Jésus? On peut être en paix parce qu'il la donne. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et un don, vous savez, c'est gratuit. Si je donne quelque chose à Jonathan, tiens, c'est gratuit. Pour lui, mais pour Jésus, ça lui a coûté. Et vous pouvez être en paix. Oui, il vous la donne, mais parce que c'est lui qui a accepté de payer le prix pour que vous, vous puissiez la recevoir en retour. Elle est gratuite. Paul aux Thessaloniciens dira que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. On voit donc que Dieu donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Mais dans ce texte, il est dit aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » On voit qu'il est parlé d'un deuxième repos, d'une paix encore plus profonde. Et là, il nous est dit de prendre son joug. Vous savez, le joug, c'est quoi? J'avais déjà expliqué, c'est une sorte de grosse pièce en bois qui sert à atteler deux bêtes ensemble. Vous comprenez? En fait, le joug, c'est l'image de l'union. Vous savez, on peut côtoyer Christ, c'est facile. Il suffit de venir à l'église, de voir des gens un peu spirituels, d'écouter la parole de Dieu. C'est facile de côtoyer Jésus. Mais c'en est une autre de s'unir à lui, de s'attacher à lui. Parce que si au final, je n'ai pas la paix, je viens à lui, il me donne la paix, je repars, je perds la paix, je reviens à lui, il me donne la paix, je repars, etc. Ce n'est pas vraiment une paix durable. Si on veut avoir la paix profonde, j'ai besoin de m'attacher à Jésus. Pas simplement venir de temps en temps le voir, mais m'unir à lui. C'est l'image de la communion. Dans Job, au chapitre 22, verset 21, il est écrit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. » S'attacher à lui. Oui, vous venez à l'église, d'accord? Oui, vous côtoyez Jésus, d'accord? Mais est-ce que vous vous êtes attaché à lui? Ce n'est pas la même chose. Parce que si l'on veut une paix profonde, durable, il faut que je m'attache à celui qui est le prince de la paix. En tout cas, lui, Jésus, il a fait son choix. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il dira à ses disciples. Lui, Jésus, il a choisi d'être avec moi tous les jours. Et je peux être en paix. Parce que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas, Jésus a décidé d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous sentez sa présence? Peut-être, peut-être pas. Peu importe. En tout cas, lui, il a promis. Et il est fidèle qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si celui qui donne la paix, celui qui règne sur toutes choses, a promis d'être avec nous, il s'est engagé à nous aider, à nous suivre, à nous relever à chaque fois qu'on se plante, qu'on se trompe, pardon. Mais s'il a fait cette promesse, on peut être en paix, parce qu'il l'a promis. Dans Galates 5, 22, il nous est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est le résultat de la présence de Dieu dans ma vie, mais à la longue. Vous savez, la paix, elle augmente petit à petit. Et vous savez, on peut au début être troublé facilement, puis petit à petit, plus on avance, plus il y a la présence de Jésus dans notre vie, ben moins on se laisse troubler par les circonstances extérieures. Dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Là, dans ce texte, il nous a aussi parlé de la paix. Mais l'apôtre Paul va dire « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. » Et c'est vrai qu'il peut y avoir le péché qui enlève la paix, mais on voit dans la Bible qu'on peut aussi perdre la paix parce qu'il y a des besoins. Souvent, on voit dans la Bible qu'on peut perdre la paix parce qu'il y a des manques. Il peut y avoir des besoins matériels, des besoins financiers, des besoins affectifs. Il peut y avoir toutes sortes de besoins dans la vie, vous savez. On a des besoins. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des besoins? Ah, j'ai pas ça, comment je vais faire? Ah, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, comment je vais faire? Il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Et on commence à paniquer, vous comprenez? On peut perdre la paix, c'est vrai, parce qu'il y a le péché. Et là, c'est sûr. Et souvent, quand on est chrétien, des fois, quand on perd d'un coup la paix, c'est qu'on a fait une bêtise. Hein. Qu'il faut se tenir dans la présence de Dieu et puis il nous montre tout de suite là où on s'est loupé pour qu'on puisse le réparer. Mais des fois, c'est pas à cause du péché. C'est à cause des inquiétudes. C'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a peur. Un peu comme, vous savez, Pierre qui était sur la barque, qui marchait par la foi, il marchait sur l'eau. Puis d'un seul coup, hop, il se met à regarder le... Enfin, c'est bizarre quand même. Il marche sur l'eau et puis d'un seul coup, il se met à regarder... il regarde pas à ce qu'il est en train de vivre, il commence à regarder à la tempête, à la hauteur des vagues. Puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se met? Il commence à couler. Jésus va lui dire, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais dans ce texte, il y a un commandement de Dieu. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Tout à l'heure, on l'a chanté, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Dans Hébreux 4, au verset 16, il nous est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dieu sait quels sont nos besoins, mais il nous demande de lui faire connaître. Est-ce que vous avez fait connaître à Dieu vos besoins? Ou est-ce que vous vous inquiétez avec? En tout cas, voici ce que va dire Jésus sur le sermon sur la montagne. Il va dire « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Il sait de quoi nous avons besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Je peux être en paix, parce que Dieu sait et Dieu prend soin de moi. La Bible dit que dans Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Si Dieu prend soin des petits moineaux, si Dieu a pris le soin de vêtir l'herbe des champs qui sera brûlée, qui est-ce qu'on est pour dire qu'il ne prendra pas soin de nous alors qu'il a déjà donné son Fils unique à la croix pour nous? S'il a donné son Fils à la croix, s'il a payé le prix suprême pour nous, ne nous vêtira-t-il pas? Ne prendra-t-il pas soin de nous? S'il le fera, je n'ai pas à m'inquiéter, je peux être dans la paix, parce que Dieu s'est engagé à prendre soin de ses enfants. Et si je suis un enfant de Dieu, si je cherche premièrement son royaume et sa justice avant toute chose, toutes ces choses me seront données par-dessus tout. Et enfin, pour finir, je peux avoir la paix parce que je peux mettre ma confiance en Dieu. Dans Ésaïe 26, verset 3, il est écrit que « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » On peut avoir la paix parce qu'on se confie en Dieu. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Vous savez, si vous ne faites pas confiance à Dieu, il est impossible que vous ayez la paix. un moment dans le contexte de la sagesse et des épreuves, dans Jacques au chapitre 1er, au verset 5, il nous est dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi. Car celui qui doute, donc celui qui ne fait pas confiance, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Vous voyez ? Le doute, ça met le trouble. La foi, ça met le calme. C'est simple. Qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Dans Hébreux, il y a un texte qui nous dit que les Hébreux n'ont pas pu rentrer dans le repos. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et à un moment, vous savez, la foi, c'est quoi ? Des fois, on se dit, ouais, la foi, je l'ai pas. Non, la Bible, elle dit que tous les hommes ont reçu une part de foi. La foi, c'est un choix. La foi, c'est un choix. Est-ce que je choisis de prendre Dieu au mot et de lui faire confiance ? Est-ce que j'estime que Dieu est digne de confiance pour que je lui confie ma vie et que je m'en inquiète plus parce qu'il en prend soin ? Ou bien il ne l'est pas et je doute. Mais si je lui fais confiance, si je choisis résolument à celui qui est ferme dans ses sentiments, ses résolutions, tu assures la paix, alors je peux avoir la paix dans mon cœur. Donc en résumé, pour avoir la paix, être pardonné de ses péchés, on peut être en paix parce que c'est Jésus qui a payé le prix et que lorsque je mourrai, qu'il me reprendra, je sais que ça se passera bien. Parce que je suis coupable, c'est vrai, mais il a payé pour moi. Et mon péché, je m'en suis repenti et je peux être en paix, vraiment. Parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et si j'ai perdu la paix parce que je m'inquiète à cause des circonstances, de mes besoins, je peux lui faire confiance. Parce qu'il est digne de foi. Et s'il a donné son Fils unique à la croix, à combien plus forte raison ne me donnera-t-il pas toute chose avec lui ? Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Et merci parce que tu donnes la paix. Tu ne donnes pas comme ce monde donne, Seigneur. Tu donnes une paix ineffable, une paix qui surpasse même l'intelligence, Seigneur. Et tu nous vois devant toi cet après-midi. Tu vois chacun de nos cœurs. Et tu vois, Seigneur, celui qui a le cœur qui est agité. Celui chez qui c'est la tempête intérieurement. Mais merci parce que tu es là pour donner ta paix. Seigneur, vraiment nous te prions afin que tu puisses agir, Seigneur, et que chacune des personnes de ce lieu puisse repartir avec la paix dans son cœur, Seigneur. Merci parce que cette paix ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas des difficultés, mais elle vient de toi, Seigneur. Elle dépend de ta présence dans nos vies.